mais avec, en essayant quand même de me faire guider par deux moments forts de la pensée marxienne. Et je commencerai par exemple par la première thèse sur Feuerbach que tout le monde connaît, qui conçoit la praxis comme une objectivité pensante et pas comme un réflexe exécutif d'une idée. C'est la fameuse première thèse, et je pense que si on veut remplir des contenus sur cette thèse, même le concept d'institution pourrait être révisité en déplaçant l'attention du sujet personne auquel ce conseil est traditionnellement associé à la praxis objective. Donc l'institution, une fois restituée à sa forme matricielle du verbe instituer, donc même l'institution substantive devient une dimension acquiert, une dimension plastique et dynamique, parce que c'est le résultat d'une objectivité propre à l'agir humain. Donc si, à côté de ce premier point de vue marxien que j'ai adopté comme ligne de conduite, si vous voulez, il y a un deuxième qui est celui de le prologue, lui aussi très fameux, au-dessus de Brumaire, dans lequel Marx rappelle que les hommes font l'histoire, mais pas d'une manière arbitraire, dans les circonstances qu'ils ont elles-mêmes choisies, mais dans les circonstances qui se trouvent immédiatement devant eux, déterminées par les faits et par la tradition. Or, à la lumière de ces deux principes, je voudrais commencer à réfléchir sur la manière dont, traditionnellement, la notion d'institution a été traitée par la pensée sociologique, mais aussi juridique, en mettant au centre de cette réflexion la notion des personnes. Il me semble qu'à la lumière de ces deux points de vue marxiennes, on peut prendre congé d'une institution qui est rebattue sur la figure de la personne, à savoir d'un sujet que, comme sorte de Moloch, est représenté par les concepts weberiens de Anstalt, à savoir un groupement social dont les ordres sont imposés avec un succès relatif dans un champ donné de l'action, à tout agir qui est doué de certaines caractéristiques. Ça, c'est la notion même de Anstalt weberienne. Et cette notion-là d'institution s'affiche comme appareil contraignant qui est voué à instaurer un ordre dans un milieu donné, selon aussi la vision qui reste assez partagée autant par l'analyse d'Erwin Goffman que par l'analyse de Michel Foucault. On le rappelait ce matin dans cette vision classique organisationnelle de l'institution, Vincent Descombes, État, Église, école, organisation de secours à la pauvreté, casernes, hôpitaux. Voilà toute la constellation variée du modèle organisatif qui est doué de qualités structurelles et opératives précises. On a affaire là à un artisan anthropomorphique d'une vie bien réglée dans tout domaine. Alors, si c'est ça le modèle classique, donc l'Anstalt weberienne, qui a été reprise aussi par plus ou moins implicitement par d'autres auteurs, on voit bien que par rapport à cette définition de l'institution, les premières critiques sont soulevées par la pensée historique, et notamment par l'histoire sociale, notamment dans sa déclinaison de la micro-histoire. Parce que l'institution qui est douée de cette caractéristique-là devient la cible d'analyses qui sont beaucoup plus attentives aux situations et aux dynamiques historiques et qui sont moins séduites par des modèles idéal typiques qui, finalement, finissent par se réfier. En même temps, il faut prendre aussi avec un certain nombre de précautions ce type de réaction de l'histoire sociale et notamment de sa déclinaison de la micro-histoire. Parce que, autant peut être d'accord avec la critique au grand mécanisme de la domination dont la force normative serait généralisée, autant on n'est pas obligé à l'opposer à réduire l'institution à une entité comme création des acteurs du bas, parce que, me semble-t-il, cette position a aussi le tort un peu naïf de méconnaître l'autonomie tendancielle des dispositifs juridiques, dont la vie est toujours une vie potentielle et assez souple, versatile. Et qui n'est pas réductible exclusivement à leur application locale. Surtout, la critique que la micro-histoire adresse à cette vision totalisante de l'institution est d'imaginer que l'institution n'est pas quelque chose qui préexiste à l'action, à la pratique des acteurs, et que, au contraire, l'émergence même de l'institution, son importance historique, est déterminée au préalable par l'action des acteurs, et que donc chaque institution a sa valeur contextuelle et bien localisée. Or, dans la mesure où cette vision de l'histoire sociale vise à valoriser les pratiques spécifiques de l'interaction entre les acteurs et les pouvoirs constitués, et tend à faire émerger la figure de l'institution ex poste comme conséquence d'un processus qui est prioritairement géré par les forces inventives des hommes et des femmes, je pense que cette approche-là risque de ne pas être suffisamment équipée sur le plan critique lorsqu'il se trouve qu'il découvre, chose assez fort probable, que l'institution est déjà là, et joue souvent d'avance sur les gestes, sur les pratiques humaines, comme d'ailleurs l'avait indiqué le prologue marxien de 18 Brouwer. Revenons donc, sur la base de ce prémisse marxien, c'est-à-dire à une critique qui ne passe pas, qui fait trésor aussi des critiques qui ont été adressées à cette vision de l'Anstalt weberienne qui ont été faites par l'histoire sociale notamment, mais qui ne se limite pas à cette critique, ne serait-ce que parce que l'histoire sociale affiche toujours un certain scepticisme à l'égard des instruments du droit. Mais revenons justement à cette idée de l'institution comme personne. Rappelons, à l'instar de tous les travaux qui a incontournable de Yann Thomas, que la personne reste toujours un artifice juridique et qui est donc une notion totalement stérilisée des contingences naturelles et historiques et opère tout simplement dans la dimension du droit comme un centre vide d'imputation de droits et d'obligations. Ce modèle-là, il faut le reconnaître, a rendu un service capital à la pensée et à la praxis du droit et plus en général à l'organisation de la vie associée. Cette vision-là de la personne nous restitue une entité comme sorte de prothèse décorporisée qui introduit les opportunes médiations entre les hommes lorsque les hommes, en tant que tels, n'arrivent pas à déterminer leur interaction avec leur prochain. Donc, l'institution se place là où les vis-à-vis entre les hommes n'est pas possible. Tout simplement parce que ces relations de vis-à-vis ne suffisent pas à garantir le fonctionnement de la société. Donc, la personne est un point d'ancrage à volonté, décision et action qui double l'identité substantielle du sujet, mais en même temps, amplifie la potentialité opératoire des relations publiques et privées d'une société. Être soi-même et en même temps être créancier, débiteur, fils, héritier, signifie reconnaître que cet individu précis, avec son statut, l'authentique soi-même et le rôle typique de la classe fonctionnelle d'appartenance, trouve tous ces éléments en accueil sous la dénomination unique de personne. C'est seulement dans le Moyen Âge que le sens du concept se stabilisera dans la capacité d'agir en justice. Donc, une prérogative qui indique un rapport de type propriétaire. Avoir une personne légitime, personam legitimam habere, signifie être titulaire permanent d'une capacité à protéger ses propres droits devant un juge. Chaque fois qu'on est dû, qu'on était contraint à, par exemple, à traiter comme unité un nombre pluriel d'entités, être humain ou chose, voilà que la personne a été invoquée pour construire socialement un ensemble collectif irréductible à l'ensemble de ses parties. L'exemple classique, c'est celui de la personne juridique, qui, c'est pas la peine que, qui a été élaborée, paraît-il, hein, c'est pas sûr, à partir du XIIIe siècle, par le canoniste Sinibaldo de Fieschi, qui élaborait et classifiait la personne juridique en collegia, qui sont collegia realia, cité, bourg, église, et personalia, corporation professionnelle, religieuse, étudiante. Alors, il faut dire que par rapport à cette vision artificialiste de la personne, la sociologie est arrivée assez en retard pour se rendre compte de l'utilité que cette vision pouvait avoir. Il suffit de penser à un ouvrage comme Foundation of Social Theory de 1990 de l'américain James Coleman. Qui est par ailleurs un individualiste et pas un holiste, qui s'est rendu compte effectivement de l'importance que grâce au droit on a à valoriser la définition des agents collectifs en tant que tel et en tant qu'irréductible au comportement individuel. Récemment, il faut en revanche constater qu'il y a une sorte de crise de rejet même parmi les juristes les plus sensibles au social, comme Gunther Teubner par exemple, qui adresse une critique désormais irréversible à l'inadéquation du paradigme de la personne juridique, qui est perçue, je le cite, comme une curieuse fiction des juristes. Teubner, évidemment en s'inscrivant sur l'enseignement de son maître Luhmann, pour Teubner, le concept de personne comme centre d'imputation du droit finit par se dissoudre dans dans l'autodescription socialement contraignant d'un système d'action organisé comme lien cyclique entre identité et action. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'était déjà Kelsen au début des années 20, du XXe siècle, qui avait invité à se méfier de ces substances présumées qui cachent la réalité d'opérations fonctionnelles. Il visait les dualismes systématiques qui, sous le modèle de la théologie, faisaient aller à la recherche de la substance derrière la fonction, de la personne derrière l'institution, de Dieu derrière l'État. Or, je pense que donc nous avons l'intérêt à commencer à prendre les distances par rapport à ces modèles. Et ce premier pas s'accompagne en deuxième pas. Parce que si la personne fait écran au fait que l'acte d'instituer précède l'institution et de cette manière compromet la compréhension correcte des dynamiques sociales, un autre problème émerge de la manière dont on a l'habitude de concevoir l'institution comme un frein, comme une présence antagoniste au libre mouvement de la praxis humaine. C'est ce qu'on pourrait appeler l'institution catéchon. Dans ce cas, l'institution est interprétée comme un filtre hiérarchique des demandes de reconnaissance beaucoup plus diffuses. Et donc, l'institution devient le lieu éminent du négatif. Il s'agit du modèle que, à l'époque moderne, remonte Hobbes, là où l'État, chez Hobbes, est, comme vous le savez, considéré la digue contre les appétits individuels et donc un élément qui prévient la violence, donc qui exclut la violence. Or, d'un point de vue historique et conceptuel, l'idée que l'institution fonctionne avec ses traits catéchontiques, pour ainsi dire, ou bien comme filtre qui bloque les forces, les pensées, les sentiments et les désirs des sujets en chair à os, remonte au moins à l'opposition toute théologique entre charisme et office, entre anarchisme pneumatique d'un côté et structure ordonnée et prescriptive de l'autre. C'est l'opposition entre liberté et obéissance sur laquelle s'est entraîné le débat protestant à propos de la nature authentique du christianisme, un débat qui est émergé dans le climat assez propice du Kulturkampf bismarckien. Dans les déclinations les plus radicalement luthériennes de la polémique, comme celle de Rudolf Sohm, par exemple, donc un historien du droit canonique et du droit romain, et aussi un théologien, l'institution est perçue comme une construction politique, juridique et sociale qui déploie ses effets essentiellement en termes de commandement et d'assujettissement, alors que la liberté des chrétiens et des communautés qui y ont formé est plutôt la conséquence de l'ingouvernabilité dictée par la grâce qui vient du Saint-Esprit. Du moment où le christianisme a essayé de gouvernementaliser la religion à travers la notion des sacrements, et donc a essayé de gouvernementaliser la voie libre de la grâce divine à travers les sacrements, les pensées catholiques auraient entamé ce processus progressif de juridification du phénomène chrétien qui aboutit à la réforme grégorienne de l'XIe siècle. Or, la vision protestante de l'institution ecclésiale qui limite la liberté du fidèle élabore de facto un modèle critique qui est suffisamment ample au point de pouvoir valoir aussi pour d'autres contextes. Au fond, une approche qui relègue l'institution dans cette lumière sinistre du pouvoir, dans ce lieu de la symétrie, eh bien, cette approche-là est aussi analogue à celui qui aurait justifié la critique sociologique française des années 60-70, Bourdieu, elle aussi liée à une lecture unidimensionnelle de phénomènes institutionnels. Il s'agit d'ailleurs d'une perspective qui trouve aussi un appui dans les schémas rigides et totalisants du structuralisme, mais aussi dans la force du droit qui, au moins dans ses déclinaisons formalistes, structurées et structurant les déjà. De l'autre côté, comme l'a bien montré Luc Boltanski, qui a été déjà évoqué ce matin par Loïc dans son ouvrage de la critique, le pragmatisme a visé précisément à dévaluer précisément l'autonomie de l'institution, donc on revient un peu sur les positions de la micro-histoire, et les caractères stables et indépendants des instruments sémantiques dont l'institution se sert, pardon. Par exemple, les normes juridiques. Le pragmatisme, au contraire, voulait montrer qu'il y a un caractère toujours situé de toute énonciation et donc l'importance de la composante contextuelle grâce à la capacité inventive des acteurs qui trouvent d'une manière toujours autonome la capacité de vivre ensemble, indépendamment et même en dépit des contraintes imposées par les institutions. Alors là, justement, Boltanski observe que le pragmatisme, avec cette vision, finit par hypostasier un accord implicite dans la société. un accord qui réabsorbe l'incertitude qui caractérise l'être dans le monde. Alors que, toujours d'après Boltanski, c'est la dispute, c'est le désaccord, les motifs fondamentaux de la vie sociale, et donc la condition pour élaborer une forme critique. D'où une reconsidération du rôle de l'institution que Boltanski, comme peut-être ceux qui l'ont lu, se souvient avec cette définition qui est désormais assez forte, selon laquelle l'institution est un être sans corps auquel est déléguée la tâche de dire ce qu'il en est de ce qui est. Aux institutions, donc, revient la tâche de confirmer ce qui est important. Finalement, les institutions doivent séparer ce qui doit être respecté de ce qui ne doit pas l'être. Oh, je pense que la tentative de Boltanski est sans aucun doute un pas en avant très important pour mesurer le rôle de l'institution beaucoup plus sur les questions, sur les enjeux, que sur le statut des sujets collectifs qui détiennent a priori une position de pouvoir. Donc l'attention tombe sur les modes d'institutionnalisation plutôt que sur une identité institutionnelle qui existe a priori. On institutionnalise chaque fois des présences relativement organisées dont la fonction est de dire et confirmer l'agenda, d'une société dans une période historique donnée. Donc, tout établissement structuré dans la continuité qui est appelé à exercer cette tâche peut être dénommé institutionnel. D'où la conséquence, qui ne me paraît pas du tout négligeable, qu'on valorise in primis l'élément de la contingence historique dont prend forme l'institution, ce qui nous permet de ne plus poser les regards sur le lieu classique de l'Anstalt, mais de s'équiper critiquement dans la capacité de repérer chaque fois d'une manière différente quels sont les lieux émergents, les entités émergentes qui ont vocation à s'institutionnaliser et à se stabiliser dans la durée. On arrive donc par là, me semble-t-il, à observer l'œuvre de l'institution dans le pouvoir d'indiquer et valider la présence de nœuds politiques, sociaux, juridiques exemplaires, mais aussi lato sensu existentiel, qui prépare la scène dans laquelle le sujet entre en relation avec les autres et aussi avec soi-même. Or, et j'arrive vers la fin de mon exposé, cette vision de Boltanski qui nous propose une institution aux propriétés assez souples, fluides, et moins définies autour d'une domination préconstituée, malgré cette tentative, l'institution de Boltanski agit toujours comme un filtre entre en dedans et en dehors, entre ce qui est admissible d'un côté et ce qu'on peut négliger, voire éliminer de l'autre. Je pense qu'on peut accomplir un déplacement ultérieur et se libérer de l'institution par cette présence assez envahissante du sujet personne, mieux, de sa personnification abstraite dans une figure publiquement reconnaissable qui s'érige au-dessus des acteurs privés. Et pour arriver à ces passages, je pense que, paradoxalement, on peut se prévaloir même de certaines idées qui ont été produites par les pères, ici en France, au moins de l'institutionnalisme, qui est précisément Horiot. Je dis paradoxalement parce que, quand on considère le texte de référence qui est Théorie de l'institution de la Fondation de 1925, chez Horiot, nous rencontrons la conviction, même l'appréciation la plus convaincue, de l'institution personne, et au contraire, la sous-estimation, presque la relégation, de ce qu'il appelle les institutions choses. Au contraire, je voudrais vous proposer que, grâce à Horiot lui-même, et malgré lui-même, nous pouvons réévaluer l'institution chose, au profit de par rapport à l'institution personne. Alors, après avoir constaté les limites de la théorie subjectiviste centrée sur la volonté de la personnalité étatique à l'origine du droit, donc toute la théorie du droit public allemand de la fin du XIXe siècle, Gerber, Laban et surtout Jelinek, mais aussi après avoir constaté aussi la théorie objectiviste de Dugy, selon laquelle le droit réside dans l'objectivité de la règle de droit sur le, à l'instar de la suprématie durkheimienne du milieu social sur les consciences individuelles, eh bien, après avoir rejeté autant la théorie subjectiviste que la théorie objectiviste, Oriou vise à délimiter le rôle des règles de droit. Eh bien, si ces règles représentent les institutions, pour les institutions un élément de continuité et de durée, et c'est là sa critique à les institutions, à les institutions choses, à savoir les règles de droit, on ne peut pas dire, dit Oriou, que les règles soient le moment fondatif. Alors que l'approche objectiviste de Dugy amène à attribuer au milieu social la capacité de créer les règles de droit dont naissent les institutions, selon Oriou, nulle part le milieu social peut être considéré comme ayant cette force. Le milieu social pourra, à la limite, confirmer ou inhiber les initiatives individuelles, mais il n'est pas capable d'engendrer une règle créatrice d'institution. Et c'est pour ça qu'il propose la fameuse définition d'institution comme idée et d'œuvre sur laquelle ce n'est pas la peine de revenir. Mais juste pour dire que l'idée d'œuvre ou d'entreprise qui s'incarne historiquement dans un pouvoir organisé sur un groupement social qui vit en communion avec eux. Eh bien, cette vision-là, avec ce type de caractéristiques, l'institution d'Oriou ne peut que s'identifier avec la forme personnelle et corporative, qui est la seule à être dotée de cette force vitale qui, au contraire, manquerait aux institutions choses comme les règles de droit. Mais j'irai à leur dire aussi, un peu plus que les règles de droit, toute forme de normativité, tout dispositif concret de normes. Cependant, et c'est là l'aspect intéressant, dans le moment où Oriou s'attache à clarifier les significations de l'institution chose, il fournit les arguments qui peuvent être utilement employés à l'avantage de cette institution chose, plutôt qu'à son désavantage, comme il prétendait d'ailleurs. Les institutions choses, comme les règles de droit, fonctionnent dans l'immanence sociale. Les autres choses n'inhèrent pas à une idée précise d'œuvre antériorisée en telle ou telle personne publique ou privée. Donc, les institutions choses ne représentent pas les privilèges d'aucun pouvoir constitué, mais sont des agents nomades qui sont capables virtuellement de prêter leurs services à tout sujet corporatif. L'État in primis. En tant qu'idée, je cite Oriou, la règle de droit, à savoir l'institution chose, se propage et vit dans les milieux sociaux, mais de toute évidence n'engendre pas une corporation qui lui appartienne. L'institution chose vit dans le corps social et lui prête son service. Or, dans cette proposition-là, nous pouvons défendre l'idée que la règle de droit adhère aux rapports sociaux et que donc la règle de droit n'est pas, comme le prétend la théorie formaliste, quelque chose d'autoréférentiel au droit. Mieux, on pourrait dire que cette règle est inscrite dans l'immanence de l'histoire. En même temps, dans cette définition, ce qui reste problématique, à mon avis, c'est l'idée que la règle juridique reste une source de limitation. Parce que cette vision de la règle juridique comme limite est évidemment le prolongement de l'idée de droit qui est un publiciste, à savoir du droit conçu comme loi, à savoir expression d'une volonté souveraine. Une position de ce type, finalement, me semble oublier la matrice authentique du droit qui repose sur l'activité de ce sujet privé, pour lequel la règle juridique n'est pas un principe qui simplement interdit et sanctionne, mais avant tout une occasion pour créer et innover les relations matérielles et symboliques. Donc l'effort, à mon avis, c'est d'éviter l'incorporation de la règle dans la personne-institution, en remettant en permanence en discussion ce mouvement de subsomption par la personne de l'immanence propre à l'institution chose qui sont les règles de droit. Et je termine en vous citant un exemple, comme cette tendance à la personnification appartient à c'est une sorte de loi innée à la notion même d'institution, de se penser toujours comme une personnification. Une des institutions classiques sur lesquelles on revient tout le temps, c'est l'institution du marché. Alors, quand on fait une petite analyse historique de ce que c'est les marchés à partir de l'Ancien Régime jusqu'à la conception contemporaine du marché, nous voyons qu'au départ, les marchés, comme a été démontré par exemple par l'histoire sociale, notamment par Braudel, les marchés de l'Ancien Régime, l'institution marché, c'est quelque chose qui, comme dit Braudel, c'est faire surface. C'est-à-dire les marchés dans l'Ancien Régime, c'est le signe matériel d'une vie citadine, donc il isole un périmètre urbaniste de l'urbe, dans la cité, où il y a la rencontre entre les besoins des hommes. Vers la fin du XVIIIe siècle, cette notion de marketplace, comme les appellent les historiens, acquiert une deuxième dimension qui est le market principle. Le marché devient un principe. C'est la loi de la demande et de l'offre. Aujourd'hui, nous pouvons voir comme les marchés, à côté de ces deux registres, qui restent toujours, qui ne sont pas éliminés, il n'y a pas de progression, on rajoute une troisième couche qui, finalement, fait revenir encore une fois l'institution marché, la fait rebattre sous cette notion anthropomorphisée qui est la personne. Aujourd'hui, on dit que les marchés craignent, les marchés pensent, les marchés sont euphoriques, les marchés sont sceptiques, les marchés sont incertains. Finalement, il y a une histoire totalement à la fois, entièrement personnalisée de l'institution. Encore une fois, la personnification de l'institution agit comme élément de occultation des véritables opérations qui se passent derrière elle. Donc c'est pour ça que je termine là-dessus, que je pense que même à l'instar de nouvelles conceptions de l'institution qui se sont faites en suivant différents mouvements, notamment celui des Commons, où on commence à repenser l'institution sous des paramètres qui ne sont pas des paramètres typiquement weberiens de l'Anstalt, de la personnification, je pense qu'on a intérêt à renouveler la conception de l'institution à partir de ce que, par définition, avait été négligé, voire sous-évalué par Auriou, à savoir l'institution chose. Voilà, je m'arrête là.